7h42 en temps universel, tout de suite sur RFI, le journal des sports. Avec vous Christophe Diremzian, du football et le bon début des joueuses du tout-puissant Mazembe dans la phase de groupe de la Ligue des Championnes au Maroc.
Oui, victoire 2-0 des Congolaises à El Jadida sur les Sud-Africaines d'University of Western Cape. 2 buts en seconde période signés Lacho Flora Marta et Merveille Kanjinga. Ça ne permet pas pour autant la formation de Lubumbashi de prendre la tête de la course à la qualification pour les demi-finales dans le groupe A, puisque les Marocaines de l'ASFAR ont fait encore mieux. Succès 3-0 sur les Sénégalais d'Aigle de la Médina, novice, il est vrai, dans cette compétition. Un écart au score qui traduit aussi un certain écart de niveau, estime Sherba, le président du club.
Ce match démontre encore une fois le fossé qu'il y a entre le football féminin marocain et celui sénégalais. Il y a une dizaine de jours, notre équipe nationale a été battue par celle du royaume chérifien 7-0. C'est dire, nous avons logiquement perdu compte tenu du niveau technique des Marocaines et sûrement de leur niveau de préparation lié à des moyens très très importants. Maintenant, focus sur l'équipe sud-africaine que nous pensons pouvoir battre et espérer nous qualifier.
Sherba avec Babacar Fall à suivre aujourd'hui le coup d'envoi du groupe B à Casablanca. Les tenantes du titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, affrontent les Égyptiennes du FC Massar à 14h temps universel et les Éthiopiennes de CBE sont opposées aux Nigériennes d'Edo Queens à 17h TU. Deux buteurs masculins à signaler cette fois dans les championnats européens. En Ligue 1, l'international marocain Elias Ben Seguir a réalisé un doublé avec Monaco, vainqueur à Strasbourg 3-1, et Mohamed Salah a parachevé le succès à domicile de Liverpool sur Aston Villa 2-0.
La Basketball Africa League, la route vers la phase finale 2025, s'est dégagée pour deux équipes de la division Ouest.
Billet en poche effectivement pour le Stade Malien et Al Ahly Tripoli en demi-finale de l'Elite 16 à Abidjan. Le club de Bamako a largement dominé les Camerounais de la Kadji Sport Academy 80-57. Beaucoup plus de peur et d'efforts à fournir pour la formation libyenne, victorieuse des Ivoiriens d'ABC Fighters 80-76. Au bout du suspense, Molamine Sissavané a tout suivi de cette journée au bord du parquet.
La porte du vestiaire transformée en darbouka, les Tripolitains fêtent leur victoire sur l'ABC qui a cru pouvoir mettre fin à leur invincibilité en dominant le deuxième et le troisième quart-temps. Mais à près de 2 minutes de la fin, porté par un Kevin Murphy impitoyable, auteur de 36 points, Al Ahly renverse la vapeur, le coach Fouad Bouchakra.
Ils ont très bien joué le ABC Fighters, ils ont très bien tiré le premier mi-temps. On était mal offensivement, on a fait une très bonne défense, on avait toujours un esprit très fort pour gagner. C'était pas facile, mais on a gagné. Alhamdoulilah, c'était un très bon match.
Un peu plus tôt, les Bamakois, comme à la maison, avaient raflé le premier ticket.
Abidjan nous a toujours souri. Il y a beaucoup de fans du Stade Malien à Abidjan.
Kaba Kanté, directeur technique du Stade Malien, stratège face à Kadji Sport.
On a profité de leur faiblesse, surtout les replis défensifs chez eux. Les replis là, on a profité pour accélérer. Dieu merci, on est là et avec la qualification en poche.
Les deux qualifiés seront opposés ce dimanche dans une finale sans enjeu majeur. Les deux perdants, eux, vont jouer la troisième place. Il se peut qu'un troisième ticket qualificatif soit attribué, nous a confié un responsable de la FIBA, Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et une info rugby pour finir. L'Afrique du Sud entame aujourd'hui sa tournée d'automne de test match en Europe. Les champions du monde 2023 affrontent l'Écosse à Murrayfield à partir de 16h10 temps universel.
Merci Christophe Diremzian.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelroet.
Et à la une ce matin, 30 morts à Gaza, dont 13 enfants, le bilan de 2 nouvelles frappes israéliennes sur des habitations, selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Le Qatar, de son côté, a confirmé hier soir la suspension de sa médiation dans la guerre à Gaza, faute de volonté et de sérieux dans les négociations de la part d'Israël et du Hamas. Ce sont les mots de Doha. La perspective d'une trêve s'éloigne encore un peu, alors qu'un groupe d'experts internationaux met en garde contre l'imminence de la famine dans certaines parties du nord de la bande de Gaza. Israël rejette ces avertissements et affirme avoir accru ses efforts pour faire parvenir de l'aide. Aux États-Unis, la claque électorale qui s'est confirmée cette nuit pour le camp démocrate, grand chelem pour Donald Trump, déjà élu, mais déclaré vainqueur il y a quelques heures dans l'Arizona. Il a donc gagné tous les États clés. Il reviendra au pouvoir le 20 janvier, mais retrouvera avant cela le bureau ovale dès mercredi prochain à l'invitation du président sortant Joe Biden pour préparer la transition. Et puis la Russie, où le maire de Moscou annonce l'interception de 22 drones ukrainiens qui se dirigeaient vers la capitale. L'une des attaques de drones les plus importantes a visé Moscou depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022. Et c'est l'un des événements les plus importants d'une année déjà considérée comme la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité et la première au-dessus de la limite d'1,5 degré de réchauffement. La COP29 s'ouvre demain à Bakou en Azerbaïdjan. Vous la vivrez sur RFI. Et déjà, la conférence de l'ONU sur le climat s'annonce marquée par l'absence de nombreux chefs d'État, Joe Biden et Emmanuel Macron, parmi tant d'autres. Dans notre tour du monde des correspondants, ce dimanche, on se penche sur trois figures de négociateurs qui vont représenter leur pays, à commencer justement par les États-Unis et John Podesta qui devra dès demain tenir une position difficilement tenable car Joe Biden a ramené le pays dans l'accord de Paris. Mais le 20 janvier, c'est Donald Trump qui reprendra les clés de la Maison Blanche et qui promet de le quitter de nouveau. Loubna Anaki, à cette COP, il y aura donc comme un éléphant dans la pièce.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Impossible de ne pas penser que tout ce que John Podesta pourrait négocier ou promettre en tant que représentant de l'administration Biden pourrait, et il y a de grandes chances, être annulé par Donald Trump dans un peu plus de 2 mois. Pourtant, c'est vrai, John Podesta, qui a succédé à John Kerry, n'est pas un inconnu et a les épaules nécessaires pour ce genre de mission compliquée. Il a servi comme conseiller sur les questions climat auprès de Barack Obama, a dirigé la campagne présidentielle d'Hillary Clinton avant de rejoindre l'administration Biden pour gérer, là aussi, les questions de l'environnement. Les choses auraient probablement été plus faciles pour lui lors de cette COP si Kamala Harris avait gagné. Et donc, il sera intéressant de voir ce qu'il va réussir à faire durant ce sommet, sachant que l'administration Biden apparemment travaille en ce moment même sur des moyens de protéger de Donald Trump les mesures prises sur le climat depuis 4 ans.
Loubna Anaki à New York, merci beaucoup. Parmi les personnalités clés de cette COP29, il y a aussi un Kenyan, Ali Daoud Mohamed, président du groupe africain des négociateurs sur le climat, envoyé spécial pour le climat du gouvernement de William Ruto. Il sera l'un des porte-voix du continent à Bakou et il est aussi devenu une référence dans son pays pour les questions climatiques, Alban Tiroir.
Expert en développement et politiques environnementales, c'est ainsi qu'Ali Daoud Mohamed se présente sur le réseau social LinkedIn. Fonctionnaire de longue date, il a plus de 20 ans d'expérience au sein du service public kényan à des postes en lien avec le climat. Il a notamment été ministre délégué à l'environnement, puis conseiller sur le changement climatique au sein de la présidence. Investi pour la cause environnementale, il est aussi président du conseil d'administration de Wildlife Direct, une ONG qui œuvre pour la protection de la faune au Kenya. Discret, Ali Mohamed a surtout été propulsé sur le devant de la scène internationale lorsqu'il a été nommé envoyé spécial pour le climat par le président William Ruto en 2023. Un de ses premiers chantiers a été le sommet africain pour le climat qui s'est tenu à Nairobi l'année dernière. Depuis, il s'exprime régulièrement dans des médias internationaux. Le Kenyan pousse pour une Afrique avec une voix unifiée sur les questions environnementales. Il insiste notamment sur l'urgence d'obtenir des financements pour aider le continent à faire face aux conséquences du dérèglement climatique et à financer sa transition énergétique. Ce sera un des points clés à la table des négociations lors de cette COP29.
Alban Tiroir à Nairobi pour RFI. Et puis pas de surprise du côté de l'Argentine qui ne sera de toute évidence pas l'un des facilitateurs de cette COP29 à Bakou. Celle qui représentera Buenos Aires est parfaitement alignée sur la vision du président Javier Milei. Celle du climato-scepticisme, Théo Conscience.
Oui, Anna Maria Vidal de Lamas est une avocate spécialisée dans le droit environnemental qui s'est notamment dédiée au Conseil pour les entreprises. Un pied dans le secteur privé qui résonne avec cette phrase prononcée il y a 2 semaines lors de la COP biodiversité quand elle avait estimé que la gestion climatique est une question de marché. Diplômée de l'université de Buenos Aires, elle a travaillé pour le gouvernement néolibéral du président Carlos Menem dans les années 90 et a été nommée en janvier à la tête du portefeuille de l'environnement, rétrogradé du rang de ministère à celui de sous-secrétariat d'État par Javier Milei. Depuis, Ana Maria Vidal de Lamas défend la position du président argentin. Le changement climatique est un phénomène cyclique qui n'a que peu à voir avec l'industrialisation et l'activité humaine. Tout en écartant une sortie de l'accord de Paris sur le climat, elle assure qu'à la COP29, l'Argentine ne sera pas proactive, mais qu'elle tiendra ses engagements.
Théo Conscience à Buenos Aires et cette COP29 à Bakou que vous suivez dès demain sur RFI et en ligne sur RFI.fr. Et un nouvel épisode ce dimanche de l'Afrique en marche avant la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar qui vient d'ouvrir ses portes au Sénégal. Une illustration de l'essor véritable que l'art contemporain africain est en train de connaître. Les galeries et les fondations se multiplient, les artistes du continent accèdent à une notoriété de plus en plus grande et la vente de leurs œuvres continue d'augmenter, Frédéric Garat.
Sculpteurs, peintres ou photographes, les artistes contemporains du continent ont le vent en poupe. Selon Art Basel en Suisse, l'un des principaux marchés internationaux d'art contemporain, les artistes africains ont vu les ventes de leurs œuvres passer de 47 millions de dollars en 2021 à 63 millions l'année suivante. L'une des conséquences de ce succès, c'est la multiplication des lieux d'exposition en Afrique. Yacouba Konaté, directeur de la galerie de la Rotonde des Arts, l'une des premières à Abidjan.
Si je prends l'exemple d'Abidjan, en 2006, il y avait peut-être 3-4 galeries, mais l'année dernière, on était 11. Ce qui renvoie aussi à l'effectif de plus en plus grand d'artistes pertinents. Moi, j'en reçois au moins 5 par semaine qui viennent me montrer ce qu'ils veulent faire. Et puis, tu as des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à cet objet dans la mesure où tout le débat sur le patrimoine, on incite chacun à comprendre que le patrimoine de demain, c'est l'art contemporain d'aujourd'hui.
Un patrimoine artistique qui a besoin d'être accompagné dans son émergence. Au Cameroun et en Tunisie, par exemple, l'Agence française de développement soutient 2 centres artistiques. Gaëlle Marol est la responsable des industries culturelles et créatives à l'AFD.
On a le projet qui s'appelle Banjun Station au Cameroun, qui est porté par Barthélémy Togo, qui a pour objectif de rehausser le niveau et la qualité de production des filières artisanales en Afrique. L'idée, c'est de stimuler la création avec des résidences d'artistes, des œuvres monumentales, de favoriser la professionnalisation des artistes. Alors sur Afrique Créative, c'est le projet Cloud Visual Art en Tunisie, parce qu'il est, propose en fait d'utiliser la plateforme Archive Art qu'ils ont, donc c'est Wafa Gabzi et Khalil Liwan. C'est aussi une plateforme d'expertise en fait dans l'art contemporain. C'est d'avoir en fait une galerie virtuelle pour refléter aussi les tendances digitales contemporaines.
Autre effet du succès artistique, la volonté pour ces plasticiens reconnus internationalement de revenir dans leur pays pour s'investir dans des structures ou des ateliers de création. Olivier Sultan, directeur de la galerie photo RZ à Paris.
Ça, c'est un phénomène relativement nouveau et que je trouve vraiment très important parce que quand on regarde l'essor de l'art contemporain, que ce soit occidental ou chinois ou américain, ça a toujours été accompagné d'un soutien local. Et là, comme le soutien de certaines autorités se fait attendre, les artistes les plus reconnus prennent l'initiative et disent « bon, on ne va pas attendre de nos gouvernements qui mettent la main à la poche, mais on va le faire nous-mêmes ». Donc ça, c'est vraiment très positif. Avant, le succès se matérialisait par une installation en Occident. Maintenant, ça commence à être matérialisé par un retour au pays. Quoi.
Et c'est ainsi que la peintre Bill Kwelani a créé les ateliers SAM à Brazzaville. En ce moment, à Dakar, elle accompagne avec le soutien du fonds Métis d'autres artistes africains en devenir pour qu'ils se confrontent aux réalités du marché à la Biennale.
Oui, c'est ça l'idée qui me vient à l'idée en me disant que non, mais quoi faire pour les jeunes? Vendre à Brazza, c'est pas évident. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'un artiste peut passer peut-être une année sans même vendre. Mais par contre, c'est depuis 2014 que j'emmène les artistes à la Biennale de Dakar. Donc, il y a une certaine fidélité où les collectionneurs savent. Donc, je pense que les gens, quand ils entendent parler des ateliers simples, forcément, ils viendront au rendez-vous. Donc, on espère effectivement que les jeunes auront la possibilité de pouvoir vendre.
La Biennale de Dakar attend plus de 400 000 visiteurs d'ici le 7 décembre. Tous ne seront évidemment pas des acheteurs, mais chacun pourra constater la vigueur de la création artistique africaine.
Frédéric Garat pour l'Afrique en marche. Il est bientôt 8h en temps universel et RFI Matin touche à sa fin. Avant la suite de l'info avec le journal de Diane Berger, on se quitte avec 100% création. Et la marque Picture, aujourd'hui spécialisée dans les vêtements pour le sport en plein air. Ses fondateurs veulent contribuer à changer la manière dont ces vêtements sont conçus, produits, consommés. Un souci d'éthique, de responsabilité et de durabilité, Maria Afonso.
Ce qui continue de nous inspirer, c'est de continuer d'être passionné des produits qu'on développe. C'est aussi ce côté communautaire qui continue d'alimenter la créativité, parce que même quand on pratique, on continue de créer.
Julien Durand, cofondateur de la marque de vêtements techniques pour les activités en plein air, Picture.
Le mot Picture est intéressant parce qu'il était anglicisé, il était en deux syllabes, hyper facilement mémorisable, dans tout un tas de langues. C'est presque un nom commun, et toute la dimension photographe artistique derrière l'image sur laquelle on pouvait jouer.
Julien Durand est né et a grandi à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Après avoir obtenu son diplôme en sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec sa passion pour la montagne, le ski, le snowboard, le skate ou encore le rugby, il s'oriente vers le management sportif. Après avoir travaillé dans de grandes entreprises, il ressent le besoin de donner du sens à son travail. Avec ses amis d'enfance, Jérémy Rochette et Vincent André, Julien Durand lance en 2008 une marque qui reflète leurs valeurs communes, l'engagement éthique et l'amour pour les sports de glisse.
Chez Picture, on a toujours su casser les codes, ne pas copier et ne pas faire comme tout le monde. On a toujours réussi à amener une petite touche design différente. Pantone couleur en rupture avec ce qui se fait mais qui reste hyper moderne, un petit détail, une petite tirette très spécifique qui fait que dans le rayon, même si on est sur trois vestes noires étanches type Gore-Tex, et ben la nôtre elle va avoir un petit truc différenciant. On n'aime pas, mais par contre en termes d'éthique de marque, de message de marque, nos haters crachent pas sur la marque et demain seront peut-être des lovers. C'est pour ça qu'on a recruté des teams de designers plus jeunes et redynamisé le design pour que la marque ne vieillisse pas avec nous.
Selon Julien Durand, les projets ne manquent pas, ce qui favorise l'évolution de Picture et encourage à une consommation plus durable.
Quels usages vont être les usages de demain pour nos consos ? Peut-être qu'aujourd'hui, chez Picture, on est capable de vous amener un set à louer sur une semaine. Comment on peut faire pour essayer de faire durer les produits plus longtemps ? On offre la garantie réparabilité à vie parce que l'objectif, c'est de dire le produit le plus éco, c'est celui que tu changes pas. À l'inverse, quand tu as un gros trou dans la veste, c'est pas vraiment réparable. On a créé des patchs pour augmenter sa durée de vie, que veuille dire quelque chose et que le mec continue d'appartenir à cette communauté et puis même ça devient un truc cool à avoir. Du coup, il fait durer un produit et il est pas obligé d'en acheter un autre.
Retrouvez l'univers de Picture sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, et c'est la fin des RFI Matin. Merci à Christophe Pernet à la réalisation. Aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur la radio du monde. Très bon dimanche à l'écoute des RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Hamid Mokadem qui publie « L'histoire dira si le sang des morts demeure vivant » ou comment un philosophe français d'origine algérienne ancré en Nouvelle-Calédonie revient sur la figure de Djoubeli Wéa, l'assassin de l'indépendantiste kanak Jean-Marie Djibaou.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.
Tout à l'heure sur RFI, idée. Pierre-Edouard Deldic.
Philosophe politique, spécialiste de la gauche, Stéphanie Rosa refait surgir dans un livre une notion oubliée aujourd'hui, le marxisme humaniste. Elle nous en parle.
Le marxisme humaniste, c'est la tradition marxiste qui se réclame de l'héritage des Lumières, ou du moins qui se situe explicitement dans son prolongement.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.